Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, nous voici de retour pour une rentrée, en fanfare, parce que, après cet été, nous venons de découvrir que nous avions un président va-t-en-guerre. Et sincèrement, je serais Bachar el-Assad, je serais vraiment inquiet. Mais enfin, j'anticipe un peu sur ce que nous dira tout à l'heure Philippe Christel, qui ne devrait pas tarder, car nous ferons bien sûr un premier bilan de cette phase diplomatique et guerrière de la France depuis quasiment un mois, qui malheureusement nous éloigne de plus en plus de notre axe Paris-Berlin-Moscou à l'origine de cette émission. Enfin, je salue bien sûr aussi Pascal Essérick, rédacteur en chef de la revue Élément. Bonsoir, mon cher Pascal.
Bonsoir.
Alors, en première partie, nous allons partir dans une comparaison audacieuse sur la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Avec par téléphone, nous allons avoir l'historien David Engels et son livre Le Déclin. Alors, le temps que la technique nous met en contact avec David Engels, Pascal, peut-être une petite présentation de notre invité pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui, David Engels est un jeune historien belge, germanophone, professeur d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles. Il a donc écrit ce livre intitulé « Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine », analogie, sous-titré « Analogie historique ». Et ce livre a été particulièrement remarqué. Donc l'auteur, rédacteur en chef de la revue Latomus, qui est la revue d'études scientifiques et latines la plus prestigieuse du monde, propose un parallèle stimulant entre la crise du monde romain et la situation du vieux continent en ce début du XXIe siècle.
Bonsoir David Engels, il n'y a pas eu d'erreur pour l'instant ?
Non, pas du tout.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et de cette comparaison de l'Union européenne et de la République romaine, comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans cette aventure ?
Oui, c'est une bonne question. En fait, les comparaisons entre différentes cultures, civilisations m'ont toujours intrigué, ce déjà assez tôt, ce depuis le début de mes études. Et je rêvais toujours d'écrire un ouvrage qui mettrait beaucoup plus en parallèle les différentes cultures humaines. Mais de plus en plus, je dirais, mon intérêt, vu la crise actuelle, c'est vraiment focalisé sur une meilleure compréhension de notre époque concrète, actuelle, maintenant. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait probablement le plus utile, en tout cas pour le moment, si je pouvais me dédier tout à fait à une comparaison entre notre époque maintenant et une époque choisie de l'histoire. Et évidemment, quand on regarde d'autres cultures humaines, quelle autre époque, au fond, ou quelle autre culture est plus connue et plus importante aussi que la culture gréco-romaine, dont est issue quand même partie aussi notre civilisation.
Alors, quels sont pour vous les premiers signes que l'on trouve dans l'organisation de l'Europe et qui vous a fait penser que c'était l'équivalent de la fin de la République romaine ?
Je dirais que les analogies se situent un peu partout, en fait. Il n'y a pas nécessairement un aspect spécifique qui m'y a fait penser, même si je dirais que ce sont surtout les aspects socioculturels qui d'emblée sautent aux yeux, hein, parce qu'à partir du moment où on compare deux systèmes politiques, ça devient évidemment extrêmement compliqué, extrêmement difficile, et on peut toujours se poser la question en quoi on ne mène pas l'analogie plus loin, trop loin. Mais je trouve que en tout ce qui concerne maintenant les questions fondamentales telles que la chute démographique, telles que les problèmes d'immigration, telles que le déclin de la religion traditionnelle et beaucoup d'autres, là on voit vraiment à première vue des analogies dont on ne sait tout simplement pas se détourner une fois qu'on les a vraiment perçus.
Oui, parce que c'est assez troublant, effectivement, dans le début de votre livre, vous parlez effectivement des problèmes d'immigration, le problème de natalité dans les peuples européens, et votre chapitre est assez troublant, car la réflexion des auteurs de l'Antiquité sont très proches de nos débats, et ils expliquent le déclin démographique par un individualisme et un désintérêt pour la famille et l'éducation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, justement, sur ces auteurs romains ?
Oui, tout à fait. Celui auquel vous faites allusion, là, justement, c'est probablement une petite citation de Polybe, hein, qui est un auteur d'origine grecque, mais qui a vécu assez longtemps à Rome et que connaissait très bien la situation à Rome et dans le monde méditerranéen. Et c'est vraiment troublant de voir comme les auteurs du premier siècle avant notre ère, donc celui que je mets en parallèle avec maintenant notre père présent européen, ont une perception tout à fait similaire à celle que nous avons maintenant de nos problèmes. en ce qui concerne l'immigration, en ce qui concerne la religion, le matérialisme, le divorce, la natalité, on voit vraiment que ces auteurs-là aussi se posent souvent avec les outils encore rudimentaires, intellectuels, historiographiques qu'ils ont, font les mêmes questions que nous maintenant, et sont très souvent aussi dans la même impasse, c'est-à-dire devant une situation dont on comprend peut-être les raisons techniques, mais où on se demande qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour dévier un peu le cours que semble prendre l'histoire et qui nous mène, nous, tout comme la République romaine tardive, droit dans le mur.
Oui, parce qu'il y a des choses assez marrantes où dans votre livre, vous expliquez, enfin, les auteurs expliquent qu'il y a des problèmes d'avortement, enfin, surtout dans la haute société, on s'occupe de moins en moins des enfants et on devient individualiste.
Oui, tout à fait. Il faut évidemment dire que ça, c'est un des problèmes, je dirais, méthodologiques de mon travail, mais problème inévitable. C'est que on a évidemment presque aucune donnée statistique de l'Antiquité romaine, par-ci, par-là, il y a peut-être un petit chiffre qui apparaît, mais c'est quand même, nous sommes plus ou moins forcés quand même de faire confiance, en tout cas d'analyser avec toutes les précautions de la critique historique les différentes données de nos auteurs, et là il y a évidemment un auteur qui est, je dirais, au centre de notre intérêt, c'est Cicéron, qui a non seulement été le compensateur des événements qui ont mené à la chute finalement de la République romaine, mais qui a aussi été un acteur assez important. Donc beaucoup de ces témoignages proviennent évidemment de Cicéron, d'autres de réflexions philosophiques contemporaines, comme celle auxquelles vous faisiez allusion aussi concernant l'avortement, qui pose un problème philosophique majeur, je dirais moral majeur, à l'Antiquité, tout comme maintenant au XXIe siècle.
Alors il y a un autre phénomène identitaire en Europe qui a été reconnu, c'est la religion, et donc effectivement on se reconnaît européen par rapport à la religion chrétienne, et vous constatez qu'elle ne représente plus aujourd'hui un phénomène de masse. Comment vous le traduisez, vous, à Rome, cette perte de religion ?
Oui, là aussi je sors justement, en fait, il y a quelques jours d'un colloque qui était dédié justement à la fin des religions, à la fin de l'Antiquité et à l'époque moderne, qui était assez, assez intéressant et qui permettait justement de mettre aussi cette question-là en exergue. La fin ou le déclin, en tout cas, des religions, soit le christianisme européen, soit le paganisme de la République tardive, a évidemment des raisons très très diverses. Il y a d'un côté, je dirais, de l'intérieur, un rationalisme de plus en plus important, hein, qui mène l'individu à ne plus nécessairement croire ce qu'on lui dit, mais justement le mettre en question, et se baser plutôt sur des réflexions philosophiques. Hein, c'est tout l'héritage, évidemment, des Lumières, qui en soi est évidemment une chose tout à fait positive, mais qui à la longue contribue quand même à souligner la religion traditionnelle, à la fois le paganisme et le christianisme, à créer aussi une impression d'individualisme et qui peut avoir comme suite à la fois un certain cynisme, je dirais, dans la partie de la population un peu plus aisée ou appartenant aux élites, hein, souvent accompagnées d'un matérialisme ou d'un athéisme, et puis d'un autre côté, dans la population en général, à Rome comme aujourd'hui, une certaine impression d'être perdu, de ne plus pouvoir tout à fait adhérer à sa religion traditionnelle, mais de chercher absolument quelque part des réponses qui nous animent tous, et à partir du moment où on ne peut plus les chercher vraiment dans la religion traditionnelle, on se tourne autre part, et soit en mêlant un petit peu différents concepts religieux dans un genre de syncrétisme, comme on en connaît beaucoup à notre époque, ou alors on se laisse fasciner par les religions exotiques, orientales, qui au fond, beaucoup d'éléments disent les mêmes choses que d'autres choses qu'on a déjà dit au fur et à mesure de l'histoire du christianisme, peut-être au Moyen-Âge ou à d'autres époques, et on adhère alors pleinement à ces religions-là qui semblent beaucoup plus intéressantes, ésotériques, profondes que le christianisme. La même chose se connaît aussi dans le paganisme romain. Là aussi, on voit vers la fin de la République une diminution de la crédibilité de la religion traditionnelle au profit de cultes orientaux, ésotériques, hein, comme le mithraïcisme, comme la religion d'Isis, et puis finalement comme les origines aussi du christianisme.
Oui, parce que vous dites que les politiques vont instrumentaliser aussi les rites païens, les rites religieux.
Oui, tout à fait. À Rome, on voit vraiment un jeu assez ambivalent de politiciens, mais c'est un peu comme aujourd'hui, c'est difficile à démêler qu'est-ce qui est croyance, qu'est-ce qui est conviction, qu'est-ce qui est cynisme, mais on voit quand même, quand on lit les témoignages, non seulement de Cicéron, mais aussi de beaucoup d'autres biographes, que les convictions religieuses, je dirais, dans l'élite sont extrêmement détachées, je dirais, de croyances simples, comme ils pouvaient exister quelques siècles avant, et que la religion est au mieux, je dirais, maintenu pour des raisons de tradition et de loyauté culturelle, et au pire, carrément instrumentalisé. On voit les deux extrêmes, on voit des personnages comme César dans Suétone, ou disons de sa biographie, qu'il ne se laissait jamais dévier de son cours politique par une quelconque considération religieuse. Et puis l'autre extrême, Auguste, qui est non, moi je dirais, manipulateur dans l'utilisation de la religion, mais qui se fait vraiment le chef de file, je dirais, d'une attitude restaurative du paganisme, qu'il redéfinit évidemment en le calibrant de plus en plus l'idéologie impériale qu'il crée.
Vous avez un chapitre sur la mondialisation, et j'ai l'impression que Rome a subi plutôt une sorte de mondialisation interne, c'est-à-dire que c'est devenu une ville de plus en plus cosmopolite et ses habitants ont eu une sorte de perte d'identité, ce qui n'était pas forcément le cas en dehors de Rome. Comment la comparer avec notre mondialisation qui est beaucoup plus vaste ?
Oui, je dirais quand même que même le monde méditerranéen, aussi de la fin de la République, subit déjà, même en dehors de Rome, un phénomène de mondialisation assez massif. Bon, c'est peut-être, évidemment, il faut se dire qu'à Rome, contrairement aujourd'hui, il n'y a pas des moyens de communication, oui. Internet, il n'y a pas une grande diffusion maintenant de marchandises comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ça est évident. Néanmoins, on voit quand même que, surtout dans l'Orient hellénistique, donc de l'époque de la fin de la République, on a quand même un brassage des cultures assez important qui ne concerne pas seulement Rome, mais aussi d'autres grandes villes telles qu'Alexandrie, telles qu'Antioche, telles que Séleucie sur le Tigre, et telles que Carthage aussi, plus à l'ouest. Et donc il y a quand même, je dirais, un certain multiculturalisme qui s'installe un peu partout et qui alors, une fois vraiment l'Empire romain établi, est vraiment favorisé beaucoup par le mouvement des troupes, par la colonisation romaine, par l'uniformisation de la loi romaine, par d'autres institutions de ce type-là. Donc là, on voit quand même, je dirais, un genre de proto-mondialisation, bien que, évidemment, avec les bémols qu'il s'agit d'appliquer, et qui amène alors des auteurs tels que Athénée ou tels qu'Aelius Aristide vraiment à chanter les louanges, parfois d'ailleurs aussi étant un petit peu plus pessimiste, quant au fait que Rome est donc devenue une ville tellement ouverte, tellement multiculturelle, qu'on y trouve tous les biens, toutes les denrées du monde, des représentants de toutes les populations, qu'à la fin, au fond, on constate que donc c'est devenu une ville monde, presque, mais qu'en même temps, presque aucun de ses habitants, là, ne peut retracer ses origines vraiment à des Romains de pure souche.
Est-ce qu'on trouve le même phénomène, je veux dire, à l'époque de la République romaine, dans les cités grecques ?
Oui, ça dépend un petit peu évidemment lesquelles on regarde. Quand on regarde maintenant les cités grecques traditionnelles, donc du continent grec ou du Péloponnèse, là on a quand même, je dirais, une région qui reste, je dirais, un peu plus à l'écart de ce phénomène de mondialisation. Bien que des villes comme Athènes ou comme Corinthe sont quand même aussi des carrefours économiques importants, mais c'est surtout dans le nouveau monde grec à l'Orient que là on va vraiment aussi une forme de brassage de culture tout à fait inouï, qui est la suite de l'expansion d'Alexandre le Grand. Là, on a vraiment une fondation de colonies grecques, toutes sur le même modèle, qui vont grosso modo du Bosphore actuel jusqu'en Afghanistan et qui va vont d'Égypte jusque dans le Caucase. Et ces villes-là sont vraiment le résultat d'emblée d'un brassage des cultures voulues par les fondateurs, font partie aussi d'immenses empires avec toute la mobilité que cela implique. Nous avons aussi des témoignages des différents conflits, des différentes tensions ethniques et religieuses qui peuvent naître là. Il suffit de regarder déjà la Bible, le Nouveau Testament, pour se rendre compte de cette atmosphère, de cette ambiance assez multiculturelle qui règne même dans une région au fond reculée, hein, comme la Palestine de l'époque, qui vit toute cette tension entre une culture autochtone juive, rabbinique, d'un autre côté comme l'influence hellénistique des colonies aux alentours. Ce cas-là est plus ou moins valable, je dirais, pour la région entière.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie, nous recevons en ce moment David Engels pour son livre « Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine ». Alors, David Engels, Rome a subi, comme souvent, une perte de confiance dans l'autorité, et forcément, on va aller vers une dérive autoritaire. Est-on vraiment dans ce cas-là actuellement en Europe ? Est-ce que vous voyez le début de cette autorité qui est en train de se mettre en place ?
Je crois que oui, on la voit à différents niveaux. D'un côté, on voit une certaine grogne populaire, hein, certains à la fois un mélange de désintérêt et quand même de ressentiment, et qui s'exprime dans des actions électorales ponctuelles, hein, qui expliquent le succès et puis aussi le déclin, hein, de mouvements tels que les Grilli en Italie, tels que les Alignés un peu partout, tels que d'autres partis extrémistes. Donc là, il y a déjà, je dirais, un bon terroir pour une réforme autoritaire de notre système. Puis on voit d'un autre côté, dans le cadre, je dirais, de l'élite européenne actuelle, hein, des institutions européennes, une tendance quand même vers une politique de plus en plus sacralisée, sûre d'elle-même, distante de la population, sacralisée, comme on le voit déjà dans le fait que l'Union européenne a reçu il y a quand même quelque temps le prix Nobel de la paix en tant qu'institution, hein, qui lui donne évidemment un statut presque sacro-saint, hein, en tant que gardienne de la paix dans le continent, et qui lui permet de légitimer un peu tout et n'importe quoi. D'un autre côté aussi, dans le décalage qui existe entre, d'un côté, les valeurs universelles que l'Union européenne prône un peu partout, et puis d'un autre côté, quand il s'agit évidemment de réaliser ces valeurs universelles en demandant à la population son avis, on évidemment bien qu'il y a certaines limites. Hein. Pensons rien qu'aux différents plébiscites concernant la Constitution européenne, hein, qui, oui, comme en Irlande, sont répétés, tout simplement, s'ils ne donnent pas les bons résultats. Donc, on a un genre de double langage. D'un côté, on se veut populaire, démocratique, et d'un autre côté, il y a quand même seulement une bonne réponse, qui est celle qui est, je dirais, politiquement correcte. Donc là, on voit évidemment aussi un autre élément, et puis un troisième, je parle évidemment justement avec des exemples, mais un autre réside dans la manière de gérer la crise financière, surtout en Grèce et en Chypre. Hein. On l'a vu avec la Troïka envoyée en Grèce et qui met les Grecs, je dirais, un peu devant le fait accompli, c'est-à-dire soit ils réalisent ce qu'on leur demande, ou alors ils peuvent aller au suicide économique, ou comme on le voit avec les différentes tentatives aussi d'institutions européenne de régler un peu avec une certaine main haute la crise chypriote, et qui au fond transforme déjà le Parlement chypriote et les parlements nationaux en des institutions d'acclamation. Maintenant, il faut se dire que cela est, à mon avis, le terroir, d'une certaine manière, d'une réforme plutôt autoritaire du système européen, et qui se trouvera, à mon avis, en analogie avec la réforme autoritaire de la République romaine, qui est devenue l'empire des Césars, sous la forme du principe augustéen. Mais je suis quand même persuadé que ce n'est pas des institutions européennes actuelles que viendra profondément cette réforme-là. Pour cela, le cadre européen est beaucoup trop enchevêtré, beaucoup trop immobiliste, et beaucoup trop dans une certaine stagnation politique et beaucoup trop entremêlée aussi avec des intérêts financiers et économiques. Je crois que comme je disais, un certain terroir est en place, que la réforme viendra d'autre part.
Oui, parce que la grande différence entre les deux, c'est leur forme de construction. Le monde romain s'est étendu par des conquêtes et par la guerre, alors que l'Europe s'est réunie par des accords volontaires des États. On a peu de chance quand même d'avoir demain un général européen qui décide de prendre le pouvoir.
Oui, ça c'est évidemment une réflexion très 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 importante, mais à laquelle il faut quand même aussi mettre quelques bémols. Hein. Quand on parle souvent de la constitution de l'Empire romain, on oublie que cette constitution était surtout dans la constitution territoriale, dans sa première phase, évidemment basée sur la conquête, mais comme dans une deuxième phase qui correspond à l'époque qui nous concerne maintenant, le premier siècle avant notre ère, souvent marquée par une adhésion plus ou moins volontaire. De ces mots nombreux, il y a quand même des témoignages aussi pour l'Empire hein, qui parlent de régions qui envoient des délégations à Rome pour demander leur attachement à l'Empire romain. Il y a le cas aussi de monarques orientaux qui volontairement lèguent leur territoire à Rome. On a même des cas comme par exemple pour la région de la Décapole où on demande à Auguste dans ce cas-là leur attachement à l'Empire romain. L'Empire romain refuse. Donc il y a quand même, je dirais, une certaine partie de la composition de l'Empire romain, en tout cas cette phase-là, qui se fait plutôt par adhésion volontaire et pas nécessairement guerrière. Et puis ce qu'on oublie aussi quand on parle de l'Union européenne, c'est que, bon, elle s'est formée à l'origine par une certaine adhésion, mais volontaire, mais maintenant, comme on le voit avec la crise dont on a déjà parlé, hein, à la fois en Grèce, en Chypre, en Espagne, en Portugal, en Italie, que ces régions-là n'ont pas le choix, tout simplement. Ils sont forcés de rester au sein de l'Union européenne. Avec ça, je ne veux pas dire que ce serait une meilleure solution d'en sortir, hein, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils savent très bien que si la Grèce sort de l'euro, sort de l'Union européenne, que c'est le désastre assuré et que c'est, comme je le disais tantôt, un genre de suicide économique. Donc là aussi, on l'a vu aussi avec la Troïka, on voyait un peu en Grèce, on voyait en Chypre, et qui se comportent aussi un petit peu comme des gouverneurs provinciaux, que là aussi, on rentre de plus en plus dans un modèle où le centre européen est tout à fait capable et veut aussi dicter ce qu'il pense bon à sa périphérie. Et donc vous disiez, oui, il y a peu de risques maintenant qu'un général prenne le pouvoir. C'est sûr qu'ici, le paradigme à Rome, en l'Union européenne...
Il est déjà plus d'armée, donc je ne vois pas comment un général ou alors un général fantoche.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'on oublie quand même aussi à Rome, c'est que Auguste, par exemple, et sa prise de pouvoir se fait beaucoup moins maintenant par une prise de pouvoir militaire imposée à la population, mais consiste beaucoup plus en un genre de compromis établi par le nouveau règne. Il ne faut pas oublier qu'Auguste, par exemple, était totalement incapable en tant que militaire et a été malade pendant la plupart de ses campagnes militaires et les a fait faire par des généraux. Donc c'était un personnage, je dirais, éminemment civil, qui était un bon tacticien. Donc à ce niveau-là, il faut mettre un bémol de nouveau à ça. Et puis d'un autre côté, quand on voit l'Union européenne, ben on voit quand même que les différents mouvements, pas seulement populaires ou populistes, je n'aime pas trop le mot populiste, mais bon, et aussi de plus en plus les partis établis jouent, on l'a vu avec Sarkozy, jouent quand même avec l'élément de la force, de la force policière. En tout cas, et des paroles à muscler quand il s'agit de faire face aux problèmes des banlieues, de l'immigration ou autre chose, pour asseoir un petit peu leur légitimité, leur standing sur l'exercice de la violence. Donc, prise de pouvoir autoritaire, pas nécessairement dans le cadre de guerres civiles ou de généraux des armées, bien qu'on ne peut jamais savoir ce que le futur nous réserve pour les 30-40 prochaines années, mais quand même, je dirais, paradigme de violence. Oui.
Pascal Essery, qui a une question pour vous.
Oui, je voudrais revenir sur quelques, pas accusations, mais mises en cause. Que répondez-vous aux historiens et aux spécialistes qui dédaignent l'analogie historique, qui dédaignent les travaux de comparaison historique?
Oui, en a beaucoup, évidemment, l'analogie historique n'a pas nécessairement...
Elle n'a pas bonne presse, en tout cas, c'est ce que...
Non, pas les derniers temps, un peu tout comme toutes les idéologies. Au fond, moi, je répondrais à ça, à quelque chose de relativement simple. Le but de l'histoire, en tout cas, de mon point de vue, n'est pas seulement de créer un genre de savoir antiquaire, poussiéreux, que des spécialistes étudient, qui ne servent en rien le monde dans lequel on vit, mais quand même de pouvoir nous aider à comprendre mieux, grâce au savoir du passé, notre présent. C'est une banalité, les anciens l'ont déjà dit. Eh bien, à mon avis, pour comprendre justement le présent grâce au passé, il faut admettre l'existence de l'analogie historique. À partir du moment où on dit que deux éléments, passé et présent, ne peuvent jamais vraiment être analogues et donc ne peuvent jamais vraiment compter en tant qu'enseignement sur le comportement actuel, et à partir de ce moment-là, c'est aussi la mort de l'histoire et on peut se demander à quoi sert encore la discipline. Donc je dirais que c'est un peu une question aussi de fond en ce qui concerne l'utilité de l'histoire. Soit elle sert à nous apprendre comment gérer des situations actuelles, et alors elle est nécessairement basée sur le fait d'admettre la possibilité d'analogie historique, ou alors elle reste un savoir de spécialiste tout à fait désincarné. Donc dans ce cas-là, oui, on peut critiquer l'analogie, mais au fond, c'est aussi un peu la mort de l'histoire en même temps.
C'est la raison pour laquelle je voudrais préciser aux auditeurs que finalement, je crois que ce livre est né d'une rencontre à l'automne 2009 avec lorsque vous avez donné une conférence sur les influences de l'Antiquité sur l'identité actuelle de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. J'avais participé ou organisé une excursion d'étudiants qui venaient à Bruxelles. Il y a très souvent des étudiants qui viennent à Bruxelles pour visiter les différentes institutions européennes. Dans ce cas-là, c'était aussi des étudiants qui venaient d'Allemagne et à qui j'ai pu présenter dans un genre de workshop quelques sources choisies portant justement sur l'Antiquité, mais qui avaient en même temps, je dirais, une possibilité d'analogie avec le présent. Et la discussion qui s'en était suivie était vraiment très intéressante. Et on voyait que tous ces étudiants, qui n'étaient pas du tout des antiquisants, mais qui venaient souvent de Sciences Po ou autre chose, au fond, ignoraient tout de l'Antiquité. Il y aurait même les noms de Cicéron, d'Auguste ou autre chose, mais étaient frappés devant la justesse aussi des observations des anciens et donc le fait que cette situation actuelle que nous vivons donc maintenant s'est déjà produite, je dirais, d'une certaine manière vers la fin de la République romaine. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai pu aussi tenir quelques semaines après une conférence sur le même sujet devant des professeurs de grec et de latin. Et là aussi, il y avait de nouveau cette demande, là, dans le cas de spécialistes, de pouvoir disposer d'une approche scientifiquement correcte, mais quand même en même temps aussi moderne, socialement engagée, qui leur permettait de mettre dans un contexte beaucoup plus vaste des sources venant de l'Antiquité et pour montrer à leurs étudiants, à leurs élèves, que le latin est une langue morte, mais que quand même l'étude du latin, de la civilisation de l'Antiquité, pouvait avoir une importance, même capitale, pour la gestion et la maîtrise de notre présent.
Je voudrais revenir maintenant dans votre livre, David Engel. L'Europe, on sait que l'Europe s'est construite autour de valeurs universalistes et non culturelles et économiques. Est-ce qu'on retrouve cet universalisme dans le phénomène romain et dans ses conquêtes ?
Oui, de plus en plus. D'ailleurs, les Romains le déplorent aussi, au premier siècle avant notre ère, des gens comme Caton, comme Varron, comme Cicéron déplorent le fait que les valeurs traditionnelles romaines se sont perdues, qu'à la place on a mis un genre de philosophie cosmopolite hellénistique ou philhellénistique orientée, je dirais, de plus en plus vers des éléments comme le bien commun ou d'autres choses de ce style-là. Et on voit très bien que Auguste, quand il construit, c'est une construction évidemment très lente, mais quand il construit au fur et à mesure des décennies son règne personnel, ce principat augustéen qui est au fond un genre de régime autoritaire mais qui se veut une république restituée, base justement cette république restituée sur des valeurs profondément romaines, à la fois dans son expression architecturale, que dans le jeu aussi que Auguste mène avec les grandes figures du passé. Et ça a quelque chose d'assez intéressant, et même, je dirais, presque de presque absurde, en tout cas, de voir donc ce régime assez ambivalent, ce régime augustéen qui, au fond, n'a plus grand-chose à faire avec la République romaine, parce que, comme je disais, au fond, c'est une dictature militaire basée sur un genre de compromis entre l'aristocratie sénatoriale et les larges couches de la population, qui en même temps, néanmoins, essaie de se vendre, de vendre son produit comme un genre de retour aux sources, retour aux origines, qui montre une fois de plus comme ces origines, au fond, étaient perdues, comme ces différentes voix qui déplorent ou qui déploraient la perte des valeurs et des traditions ancestrales devaient être fortes pour qu'il y ait cette réaction antagoniste.
On a vu que effectivement actuellement il y a un rejet des institutions européennes par les peuples et pour certains on a un discours pour un retour à une souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a une autre solution pour les peuples européens, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Les Romains, eux, n'avaient pas d'alternative. Est-ce qu'il y a eu des débuts de scission dans l'Empire à ce moment-là?
Oui, même si il est, je dirais, difficile, vu l'état de nos sources et vu la victoire finalement aussi d'Auguste, de les déceler. Mais il y a eu des mouvements tout à fait, centrifugales, hein, comme on le voit par exemple dans l'établissement des différentes zones d'influence lors du second triumvirat, hein, avec Marc-Antoine qui essaye de se constituer un petit peu son empire individuel dans l'Orient, et qui est quand même basé idéologiquement sur des éléments assez anti ou en tout cas non romains. Au moins, c'est ce que nous laisse croire l'historiographie conservée. Le Sénat provient évidemment, je dirais, de la cour d'Auguste. Ce type de mouvement a bien existé, mais il faut dire que là, la constitution de l'Empire romain était, comme on l'avait déjà dit tantôt, différente de celle de l'Union européenne, en tant que, vu le fait qu'elle s'était quand même fait durant les siècles, d'une façon plus ou moins militaire, qui a permis quand même une assimilation assez grande, je dirais, de la périphérie, quelque chose qui ne s'est pas fait en Europe, vu que toutes les grandes tentatives d'installer une hégémonie d'un peuple sur les autres, soit les Allemands ou les Russes ou les Espagnols, ont échoué. Mais j'aimerais bien aussi revenir sur ce que vous disiez au début,
oui,
c'est-à-dire le débat actuel, au fond, sur la solution de cette crise et sur le regain du souverainisme. À mon avis, cette approche-là serait à la fois pour nous, comme elle aurait été pour Rome, vraiment la pire catastrophe qu'on puisse imaginer, car vu que nous partageons tous en Europe les mêmes grands facteurs de crise, hein, c'est ce que je me suis évertué à montrer, hein, c'est différent, la perte de démocratie, le problème de la natalité, l'immigration, la religion, l'augmentation du régime technocratique, beaucoup d'autres points, que le fait de se séparer en différents États, de revenir aux francs français, de revenir par exemple à la marque allemande, pourrait peut-être pendant quelques années, peut-être pour les Allemands, avoir des suites potentiellement favorables, mais mènerait au fond à la longue tout à fait à la perte. C'est ce que j'ai essayé de montrer vers la fin de mon livre en montrant l'analogie ou en tout cas le paradigme grec. Les Grecs n'ont jamais vraiment réussi, même à l'époque hellénistique, à s'unifier. Il y a eu différentes tentatives, notamment avec les fédérations étoliennes et achéennes, où vers la fin, je dirais, donc au 3e, 2e siècle, les Grecs ont essayé de se constituer en genre de fédération proto, je dirais, qui ressemblait un petit peu au système de fonctionnement de l'Union européenne, mais au fond, n'ont jamais vraiment réussi l'unification, se sont révoltés trop tard contre contre l'emprise romaine et ont donc au fond misérablement péri. Ils sont devenus une province romaine. Donc un cas de ce style-là, une analogie de ce style-là dans l'Antiquité existe aussi. On a vu où cela a mené. Donc à mon avis, en tout cas, c'est l'analogie avec l'Empire romain nous pousse au fond soit à une plus grande unification ou alors nous mènera à la perte et fera en sorte que les différents États européens deviendront, à l'exemple de la Grèce, des genres de provinces ou de protectorats plus ou moins déguisés d'autres pouvoirs tels que les États-Unis, tels que la Chine ou d'autres.
Pascal Essérique.
Oui, pour résumer, c'est finalement ce que vous avez dit dans l'entretien que vous avez accordé à la revue Léman. L'Europe ne peut pas échapper à son destin impérial.
Oui, tout à fait. On peut, je veux dire, la position individuelle qu'on assume par rapport à cette perspective-là, bon, elle peut être positive, elle peut être négative, ça reste un peu au lecteur, à l'auditeur et surtout à l'électeur de savoir ce qu'il en pense. Mais à mon avis, en tant que perspective, c'est tout simplement inévitable. Je ne vois pas vraiment d'autre alternative. L'alternative d'un retour à un régime plutôt national, le retour, je dirais aussi, à des structures, ou le maintien des structures démocratiques actuelles qui montrent leur incapacité vu leur complexité face aux grandes crises qui animent le monde pour le moment. Sont peut-être plus sympathiques d'un point de vue des valeurs universalistes et d'un point de vue aussi basé sur les Lumières et tout ce qu'on veut, mais à la longue mèneront quand même le continent, je crois, à une crise dont il ne peut plus s'en sortir. Donc pour moi, vu les analogies avec l'Empire romain, on n'a pas vraiment le choix, soit nous assumons ce destin au fond auquel semble nous pousser notre histoire et toute l'évolution, tout le dynamisme aussi des cultures humaines, tout en déplorant la perte de liberté individuelle, peut-être que cela impliquera, mais encore on peut se demander si nous les possédons encore vraiment maintenant, ou alors nous essayons de poursuivre un idéal, je dirais, encore plus presque 19e-iste que appartenant au 20e ou même au 21e siècle, et alors nous devrons assumer aussi les résultats, c'est-à-dire qu'on deviendra à la longue un genre de maison d'impôts du monde, avec une population qui diminue, avec une industrie qui s'est perdue, avec un progrès scientifique qui a été délocalisé en même temps et qui survit grâce au tourisme chinois et indien un jour.
Oui, parce que dans votre conclusion, et je pense que ça va être notre dernière question, dans votre conclusion, vous expliquez que la crise identitaire collective qui se passe en Europe a plutôt facilité la construction européenne et non l'inverse. Et pourtant, on entend souvent les politiques nous dire que c'est la construction européenne qui a fait perdre les identités.
Oui, tout à fait. C'est un peu le mythe hein, de la construction européenne. L'Europe en tant qu'élément fédérateur qui assurerait la paix, qui serait un élément tout à fait nouveau dans l'histoire mondiale, qui, grâce à sa novité, nous aurait permis à dépasser 1000 ans de rivalité ou autre chose. C'est évidemment, en tout cas, d'un point de vue d'historien, un anachronisme monumental. Depuis le début de l'histoire européenne, proprement dite, depuis Charlemagne, et toute l'histoire européenne, au fond, est constituée par la volonté des différents Européens, des différents États européens à former un ensemble culturel et politique. Et cet ensemble a déjà été atteint. Je ne parle pas seulement de Charlemagne, pensons aussi au monde médiéval chrétien qui, de fait, est atteint par les structures ecclésiastiques, par aussi le Saint-Empire romain germanique, une certaine cohésion, je dirais, supranationale. Et puis, il suffit de penser seulement à Charlestin, à l'Empire napoléonien, aux différentes tentatives allemandes de la Première et Deuxième Guerre mondiale, pour voir comment, justement, l'histoire européenne est jalonnée de tentatives plus ou moins réussies et plus ou moins pacifiques ou plutôt militaires de s'unifier. Donc, au fond, l'Union européenne est juste le point final d'une longue évolution et que cette évolution ait finalement pu aboutir dans l'Union européenne et moi, maintenant, à mon avis, en tout cas, le fruit de la qualité des institutions européennes, mais tout simplement qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Européens et les États européens étaient tout simplement à bout, non seulement matériellement, mais aussi moralement, et ont en enfin, je dirais, abandonner l'espoir des différentes nations de devenir le pouvoir hégémonique. Donc c'est plutôt le fruit, je dirais, d'une certaine fatigue culturelle, mais qu'on voit aussi dans le monde romain de cette époque-là. Les grandes guerres que Rome a menées, c'est les grandes guerres du 5e, du 4e siècle contre ses voisins italiques qui défendaient vraiment d'une façon acharnée un village après l'autre. Une fois que Rome a plus ou moins je dirais gagné la deuxième guerre punique, le reste du monde méditerranéen lui est plus ou moins tombé tombé dans les genoux d'une certaine façon, sans qu'il y ait eu vraiment des guerres tout à fait comparables à ce qu'il y avait avant. Là aussi, il y avait, je dirais, une certaine lassitude et aussi une certaine confiance dans le fait que, bon, vu l'Empire romain, vu son étendue, vu sa structure, que l'appartenance à un tel organisme pouvait avoir aussi un certain bénéfice et qu'on était tout à fait prêt à sacrifier une certaine liberté nationale ou en tout cas régionale au bienfait de l'appartenance à une telle institution. Donc là aussi, je dirais, une analogie tout à fait comparable donc avec le monde européen actuel.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et on va avoir la dernière question à David Engels, notre invité qui a écrit le déclin. Et c'est Pascal Essérick qui s'y colle.
Oui, en bon européen, David Engels, vous êtes polyglotte. Vous animez beaucoup de colloques, de sessions de formation auprès de jeunes européens. J'aurais aimé savoir comment a été reçu votre livre en Belgique, en Allemagne, en France. Comment... Si vous pouviez nous faire un petit peu des comparaisons.
Oui, j'ai été assez étonné aussi personnellement, même si après coup les raisons sont assez logiques, de voir que mon livre, en tout cas ma thèse, a été beaucoup mieux reçu, je dirais, du côté des nations européennes en crise, en tout cas dans un certain genre de crise identitaire, que dans les différentes nations qui sont économiquement stables. Par exemple, quand je parle avec des étudiants français ou belges francophones, ou avec des Grecs ou autres, là on voit qu'il y a vraiment une reconnaissance de la crise, une mise en question personnelle, pas seulement des institutions, mais de tout notre système, qui les rend aptes, je dirais, faire ce que j'essaie de pratiquer, c'est-à-dire une mise à distance assez extrême de notre propre époque, afin de la comparer à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ils sont rendus capables de cela par la crise qu'ils vivent. Par contre, quand je parle à des étudiants néerlandais, allemands, suisses, autrichiens, on voit que là, bon, ils proviennent de pays qui se portent relativement bien pour le moment, même si en Allemagne aussi, quand on voit que contrairement à ce qu'il y a en France, que leur chute démographique dans les prochaines 30-40 années sera véritablement monumentale et mènera le pays dans vraiment une crise économique assez importante dont on ne se rend pas encore vraiment compte maintenant. Mais en tout cas, vu que ces pays-là se portent encore relativement bien, on voit que l'analogie avec la chute de la République romaine et surtout la liste des différents indicateurs de crise que j'énumère et que j'essaie de démontrer grâce aussi à des statistiques dans mon livre leur paraît beaucoup plus lointaine comme un fait, je dirais, scientifique, curieux, peut-être intéressant, mais qui, au fond, ne devrait pas vraiment changer la manière dont nous gérons les choses. Donc il y a vraiment une réception qui est une fonction directe de l'état de crise dans lequel se trouve aussi le pays auquel appartient le lecteur ou l'auditeur.
Merci à vous, David Engel. Je rappelle le titre de votre livre, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Et c'est aux éditions du Toucan. Je crois qu'il marche assez bien en France.
Oui, ça se vend très bien, d'après ce que dit mon éditeur. Il semble que ça se vend bien. Et normalement, il y aura aussi une traduction allemande à partir du printemps de l'année prochaine. Donc on verra bien comment se passera la réception.
La réception allemande. Ben, je vous remercie. Et puis, j'espère que la prochaine fois, vous serez dans nos studios et on aura toujours le plaisir de vous recevoir.
Merci pour l'invitation de parler à votre antenne.
Merci. Nous allons bien sûr faire une légère pause musicale et puis nous allons bien sûr parler de la crise de la Syrie. Philippe Christel est arrivé dans le studio. Ce studio, je le dis, les auditeurs ont dû le savoir, qui est magnifique aujourd'hui. Enfin, j'avoue que là, on a été impressionnés. Même Philippe Christel commence à être... Philippe, vous avez vu la beauté de ce studio.
Oui.
Oui, ça vous plaît.
Oui, j'ai vu.
Pour votre première, en plus, vous avez un beau cadeau parce que François Hollande vous a fait quand même un beau cadeau. Vu ce mois magnifique de la diplomatie française, je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais enfin, juste avant de vous écouter, ne quittez surtout pas Radio Courtoisie et les Chroniques de la Vieille Europe. On va faire juste cette pause musicale et on se retrouve d'ici une poignée de secondes. Dans les chroniques de la Vieille Europe, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous allons faire le point de la crise syrienne avec Philippe Christel. Après avoir vu l'analogie historique entre la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine avec David Engel. Avant de savoir si la position de la France a été bonne ou mauvaise, je crois que
l'histoire a déjà tranché.
Ce qui frappe Philippe depuis le début de cette crise, c'est un peu l'amateurisme de la diplomatie française. Comment expliquez-vous ce cafouillage diplomatique? J'ai l'impression qu'on vient de vendre le Quai d'Orsay. Il n'y a plus personne là-bas.
Écoutez, je vais évidemment vous donner raison. Je voudrais rappeler il y a un effet amateuriste chez François Hollande. Je vais donner un ou deux exemples. Pour autant, la position de la France, qui est une position grotesque et absolument contraire à nos intérêts, n'est pas neuve. Je rappelle que, et on a tendance à l'oublier.
Non.
Je rappelle, et on a tendance à l'oublier, que c'est Jacques Chirac, le premier, qui a fait de sa politique de la Syrie une destination d'agressivité de sa politique, tout simplement, et on le sait maintenant, du fait de l'assassinat de Monsieur Rafik Hariri, qui, on le sait, finance l'appartement, si ce n'est pas plus, du couple Chirac. Donc, on a eu là une convergence totalement étonnante entre des intérêts de ressentiment privé et une influence diplomatique, mais sans remonter jusque-là, si nous nous réécoutions nous-mêmes lorsque nous avons assisté à la prise de pouvoir, à la prise d'assaut du Quai d'Orsay par Bernard-Henri Lévy au moment de l'épisode libyen, je crois que nous nous sommes gossés tout autant que nous pourrions le faire aujourd'hui de cette privatisation de certaines consciences de notre diplomatie.
Il est toujours là, d'ailleurs.
Il
est toujours là.
Alors, en revanche, je crois qu'il y a, il y a un effet effectivement amateuriste. Je vais donner un exemple. D'abord, il n'y a pas un secteur de la vie publique du pays dans lesquels les professionnels du secteur qui ne sont pas au levier de l'État ne puissent constater qu'il y a un amateurisme total, absolu, idéologique et stupide des courants de transmission de ce gouvernement. Je vais prendre un exemple, c'est que lorsque François Hollande a annoncé que la France était prête à des frappes en Syrie, vous avez noté d'ailleurs, j'espère que l'Académie française enrichira son dictionnaire, parce qu'on ne bombarde plus, on frappe. Ça fait partie des éléments de la novlangue, c'est tellement plus agréable. Donc des frappes en Syrie, la France n'a même pas été capable de prévenir le Kremlin de cette prise de position. Je ne suis pas secrétaire général ni du Quai d'Orsay ni de l'Elysée, mais quand vous prenez une prise de position publique, et a fortiori quand vous savez qu'elle est contraire soit aux déclarations, soit aux intérêts de vos interlocuteurs, je ne parle même pas forcément de vos élites, de vos interlocuteurs, puisque les membres du Conseil de sécurité vont être des interlocuteurs et que ça fait longtemps que la France sait que la Russie est en pointe sur le dossier, On prévient. On prévient tout simplement parce que ne pas le faire, comme les Russes ne peuvent pas forcément imaginer qu'on est amateur, parce qu'ils pensent qu'il y a quand même de vieux restes dans ce vieux Quai d'Orsay, ils auraient pu prendre ça comme une agression. On a bien vu que les Russes se sont largement rattrapés pour mettre la France à la place qui était la sienne dans cette navrante aventure politico-diplomatique syrienne.
Même ses partenaires européens, d'ailleurs, n'étaient pas au courant. François
oui, bien sûr.
N'a absolument pas tenu compte des préventions de ses partenaires européens, dont la Pologne, qui a été la principale.
Oui, mais là, vous allez faire sourire, Philippe. Vous parlez de l'Europe et ensuite, vous commencez à dire la Pologne.
Non, mais c'est pour dire l'état dans lequel la diplomatie française est. C'est que la Pologne a été, dans cette affaire-là, la principale courroie de transmission des Russes à l'intérieur de l'Europe. Voilà, c'est tout.
Je partage pas. Je pense que les Russes n'ont pas besoin de courroie de transmission.
Factuellement, c'est le ministre des Affaires étrangères polonais qui a donné l'idée aux Russes d'étudier la piste de l'arsenal chimique.
C'est une idée que le sénateur républicain Lugar avait déjà placée dans le débat il y a plus d'un an. Donc, je pense pas que ce soit le point clé du système. Mais ce qui est certain, c'est que pour parler vulgairement, François Hollande a fait le malin, David Cameron a fait le malin, et Barack Obama a fait le malin. Et nous avons trois éminents décideurs qui ont chacun un siège au Conseil de sécurité de l'ONU qui ont fait les malins. Le premier s'est fait moucher par son Parlement tout de suite. Le deuxième a failli encourir ce même risque. Bon, le troisième, comme il consulte jamais son parlement, du coup, il n'a pas ce risque-là. Mais enfin, il a eu d'autres éléments, d'autres occasions de se faire moucher, et je vais y revenir. Mine de rien, nous sommes quand même français, et donc nous devons quand même nous désoler de la manière dont notre pays a agi. Je rappelle et j'indique quand même à nos auditeurs que la France a été humiliée au moins trois fois, et l'affaire n'est pas finie. Au moins trois fois. La première fois pendant laquelle, la première occasion d'humiliation de la France est venue de son plus proche allié, à savoir de Barack Obama. C'est-à-dire que les va-t-en-guerre de France et d'Amérique ont décidé de mettre en place un dispositif militaire, et puis d'un seul coup, sans prévenir Paris, Barack Obama a lancé cette idée d'un vote du Congrès. On pourra revenir, si on a du temps, sur les conséquences sur la présidence Obama de cet échec, de cette erreur politique majeure. Il n'en reste pas moins que François Hollande n'a pas été averti. Et François Hollande a donc pris un certain nombre d'engagements devant son propre pays et sur la scène publique, sans savoir qu'il allait demain être soumis au vote tout à fait incertain du Congrès. Et donc François Hollande s'est retrouvé sur un exercice de funambule à faire dépendre, comme jamais cela n'avait été fait de manière aussi éhontée, faire dépendre une décision d'engager l'armée française du vote du Congrès américain, c'est-à-dire des sénateurs et des plus obscurs. Représentants démocrates ou républicains de l'Oklahoma ou du Kansas, pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais auxquels je dénie la capacité de savoir ce qui est bon pour mon pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France a été humiliée une deuxième fois par Barack Obama. Alors, on n'a pas suivi, mais quand la proposition des Russes a été faite d'ouvrir la mise sous contrôle international de l'arsenal chimique libyen, aussitôt John Kerry et Sergei Lavrov se sont rencontrés à Genève, et pendant ce temps-là, la France, qui continuait à faire la maligne sur le thème « il faut vraiment, faut pas tomber dans le piège, il faut faire une résolution contraignante », le premier à avoir mis son veto à la résolution contraignante, c'est Barack Obama, qui a dit à Kerry « no way ». Les Russes sont en train de me sauver de l'immonde lisier dans lequel je me suis embourbé. Vous allez me calmer les Frenchies qui continuent à mettre de l'huile sur le feu. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle résolution, la Xème, sur laquelle la France est à la manœuvre, patati patata, très bien. Mais la deuxième humiliation de la diplomatie française, c'est qu'Obama a dit « rangez-moi ce projet de révolution ». La troisième humiliation, me semble-t-il, et c'est peut-être la pire en attendant la suivante de la diplomatie française, c'est que Eh bien, mine de rien, les négociations qui ont commencé à opérationnaliser la piste de sortie sur la Syrie ont été tenues à Genève par Kerry et par Lavrov. La France n'était pas là. Je rappelle à nos auditeurs, mais qui le savent très bien, que la France est quand même l'ancienne puissance mandataire de la Syrie. Je rappelle que la France est quand même une des puissances qui a, même si elle est moyenne, une des intérêts forts dans la région, et en tout cas un certain nombre de prétentions, tant sur la protection des chrétiens, ce qui n'est depuis longtemps plus le pavillon de la France, et on le verra, enfin ce qu'il est dans les mémoires, et puis bien évidemment il y a le Liban. Et non seulement la France a été humiliée en n'étant pas à Genève, mais les conclusions du pacte entre Kerry et Lavrov sont doublement humiliante pour la France. Premièrement, c'est que ce que la France voulait à tout prix, et là on retrouve notre droit de l'homisme habituel, c'était que les responsables, les prétendus responsables du massacre soient traduits devant la CPI. Le passage ne figure même pas dans les éléments signés par Lavrov et Kerry. Et deuxièmement, en fait, le préaccord Kerry-Lavrov remet en scène Assad comme seul représentant légal et légitime de la Syrie, puisque c'est avec lui qu'il va falloir donc discuter pour obtenir les listes des sites, un plan de désarmement, etc. C'est-à-dire que le but premier de la France, qui depuis le début, en fait, ne veut pas forcément de mal aux Alaouites ou à la Syrie telle qu'elle est organisée, mais qui veut sortir le clan Assad du pouvoir, ce qui, entre nous soit dit, est une piètre politique, mais pourquoi pas, eh bien finalement, il y a bien au moins une chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que la suite des aventures en Syrie, je ne sais pas qui va gagner cette horrible guerre civile, mais elle se fera du côté légaliste avec la famille Assad, c'est ce que Kerry et Lavrov ont convenu ensemble. Donc ça, c'est sur le domaine de l'humiliation. Ensuite, il y a des erreurs.
Enfin, je voudrais revenir sur, oui, sur les humiliations. Il y en a une quand même qui, devant les Américains, les Russes, etc., on va se dire, bon, ils sont plus puissants que nous. Mais il y a quand même eu une humiliation de la part de l'Europe, parce qu'au G20, on a quand même vu cette diplomatie européenne qui n'existe pas, mais qui est arrivée à dire, ben voilà, nous, l'Europe, on bouge pas, et la France n'était même pas au courant. Et l'Allemagne, qui, sous l'époque de Chirac, était encore à la traîne de la diplomatie française. Aujourd'hui, l'Allemagne a été trouvée que les positions de M. Hollande étaient insignifiantes.
Écoutez, l'Allemagne évolue, nous l'avons connu, enfin pas nous, parce que nous sommes trop jeunes, mais nous avons connu le national-socialisme. Le national-socialisme s'est transformé en une espèce de national-masochisme. Le national-masochisme que nous avons connu jusqu'à il y a peu est en train de se muer en un national-abstentionnisme. Bon. Alors écoutez, dont acte. Si vous voulez, cette humiliation, pour rester sérieux, cette humiliation sur le terrain diplomatique vis-à-vis de l'Europe, pour moi, elle ne compte pas, parce que tout le monde sait très bien que cette voie n'existe pas. Non, pardonnez-moi ce tropisme,
non, mais il fallait
peut-être
faire,
un peu gaulien, mais je m'attache aux 5 pays ayant un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque c'est quand même entre eux que ça se passe, et même pour ceux comme la Chine qui décident de ne pas s'en mêler, les Chinois étant, comme vous le savez, particulièrement opportuniste sur ces sujets-là, c'est au sens noble de l'opportuniste, c'est-à-dire ne réagissant que sur les opportunités qui les concernent, et ils n'ont pas vocation à intervenir. Ils observent, d'abord ils laissent faire les Russes qui font ça très bien, et ils observent avec gourmandise la conclusion de cette opération, qui sera probablement ma conclusion tout à l'heure, qui est que c'est le bloc occidental, hein, au sens où nous n'aimons pas ce mot, mais et qui est en train de, après l'Afghanistan, après l'Irak, après la Libye, qui vient de connaître sa première défaite. Et c'est probablement, ce n'est probablement pas que la première. Alors, donc sur les intérêts français, très rapidement quand même, c'est que donc j'ai parlé de l'amateurisme de Hollande, j'ai parlé à l'évidence du fait que la France n'a rien à gagner à perturber cette région particulièrement instable, d'autant que nous sommes censés être les protecteurs de chrétiens du Liban et que nous avons malgré tout encore un réseau d'alliances et de respect sur place. Nous n'avons pas non plus intérêt à jouer la carte de du fondamentalisme wahhabite. Et a fortiori encore moins vis-à-vis de la scène mondiale, à nous montrer comme les supplétifs diplomatiques absolus des Américains. D'autant que on s'est rendu compte que s'il avait fallu intervenir, nous aurions été les supplétifs, mais encore plus que jamais, les supplétifs militaires des Américains. Et vous avez remarqué les bouches tout à fait pincées de nos militaires qui doivent remercier Vladimir Poutine tous les jours de leur avoir évité soit la pantalonnade qui consiste à tirer 3 missiles et puis 120 parce que depuis le Mali on n'a probablement pas regarni les stocks du fait de la disette budgétaire, soit engager davantage de forces, sacrifiant ainsi les sommes non provisionnées au budget sur au titre des opérations extérieures. Vous savez que c'est ça qui fait en gros qui fait exploser dans le mauvais sens les budgets de la défense. Si vous prenez le budget 2013 et les prévisions de budget qui suivent, la ligne OPEX Syrie, il n'y a pas grand chose, hein, sauf que c'est bien évidemment c'est pas Obama qui aurait payé les frais de mazout de nos, alors pas de notre porte-avions parce qu'il doit être en cale sèche je sais pas où, mais et puis au-delà de ça, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais il y a eu une situation très embarrassante pour les militaires français, qui est l'histoire du tir de missile israélien. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous avez dû le voir passer. Je donne le contexte. Je donne le contexte pour nos auditeurs. Bon, il y a des vaisseaux américains partout dans l'est de la Méditerranée. Ça, on aura compris. Les Israéliens sont en alerte vigilante maximum rouge très grave, hein, ce qui est le niveau d'alerte 27 sur une échelle de 27. Hein. Ils hésitent entre le 26 et le 27. Toujours en alerte, les Israéliens. Comme ça, c'est la vieille stratégie de la tension. Et puis, quand même, dans cet exercice mutuel avec les États-Unis, eh bien, les Israéliens tirent 2 missiles. Zéro communiqué des Israéliens. Quand on tire des missiles, on va pas raconter qu'on tire des missiles. Zéro communiqué des Américains. Ils font joujou ensemble. Mais les Russes, quand même, eux, ils disent, hop, 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 nous, on a vu 2 missiles. Il y a quelqu'un, là, qui a tiré 2 missiles en Méditerranée. Nous, on l'a vu. Ah, on l'a vu. Alors, du coup, les Israéliens ont fait un communiqué pour dire, oui, bon, c'est nous, mais vous inquiétez pas, on fait un exercice, tout va bien, que tout le monde dorme tranquille. Ce qui est intéressant, c'est que la France, elle l'a pas vu, elle.
Non.
La France, elle l'a pas détecté, le missile. Vous vous souvenez hein, que la France, malgré ses petits moyens, est toujours sur la ligne de front, parce que nous, on arrive à tout faire. En revanche, les Russes, on sait très bien que depuis l'écrasement de l'Union soviétique, c'est des vieux arsenaux, ça marche pas, c'est corrompu, c'est cassé, etc. Ben non, il y a deux pays aujourd'hui, il n'y a que deux pays aujourd'hui qui maîtrisent l'alerte balistique avancée, c'est les États-Unis et les Russes. Bon, ils ne sont pas si décatis que ça, c'est au moins ça qu'on aura retenu. Mais ce qu'il faut retenir, ça veut dire que la France, elle n'a pas investi dans ses équipements. Alors elle maîtrise la technologie d'alerte spatiale, mais elle ne maîtrise pas l'alerte balistique avancée. Ça veut dire que, accessoirement, on cherche partout des armes chimiques. Enfin, je veux dire, heureusement que les Syriens n'ont pas prévu de nous balancer des missiles, parce que s'ils attaquent avec ça, je ne sais pas si on va les voir venir. Clairement, et les spécialistes sont obligés de le dire, alors ils n'ont pas claironné ça très haut, mais il y a un trou dans la raquette. L'expression n'est pas de moi, l'expression elle est d'un spécialiste, d'un expert en politique spatiale, la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui s'appelle Xavier Fasco. Et donc, ce trou dans la raquette, il veut dire deux choses. Il veut dire que nous n'avons pas l'autonomie du renseignement. Ça veut dire que si on doit demain s'engager dans un conflit en Syrie ou ailleurs, il faudra que soit les Russes, soit les Américains nous disent « Bon, on vous prévient, il y a machin qui a lancé des missiles. Ah bon, parce qu'on ne les a pas vus, nous. Hein, » mais... Donc vous imaginez quand même sur quelles hypothèses vous basez des décisions stratégiques d'engagement. Et la deuxième chose, c'est donc qu'à partir du moment où on n'a pas cette liberté d'appréciation pour engager nos forces, on ose imaginer le rôle que nous aurions eu à côté de notre futur allié, quel qu'il soit, en l'occurrence les États-Unis.
Oui, parce que le paradoxe, c'est que les Français qui sont prêts à vouloir faire la guerre, j'ai l'impression que François Hollande est prêt chaque année à faire une guerre, et pourtant les dépenses militaires baissent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une logique dans cette histoire. On pourrait essayer de se réarmer. Je vois que les drones vont être achetés aux Américains, c'est-à-dire qu'on va quasiment même pas en développer. Ça, c'est le paradoxe de la politique française. Il y a quand même une incohérence là-dedans.
Oui, si vous voulez qu'on glose sur l'incohérence des politiques budgétaires françaises depuis 1950, mais où les mettons depuis...
jusqu'à là, mais disons que dans les quelques dernières années, politiquement, il n'y a personne pour dire quoi que ce soit, que ce soit à droite ou à gauche.
Enfin, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais Si nous interrogions à ce micro un général français venant d'être en retraite, hein,
parce à la retraite, parce qu'ici,
ils ne viennent que quand ils sont en retraite. Alors on pourrait dire, bah oui, ils ont des carrières, faut comprendre, etc. Moi, je suis très sévère avec eux, puisque c'est avec la flopée de généraux qu'on a dans tous les coins, parce que ça, on n'en manque pas des généraux, qui coûtent d'ailleurs un fric dingue au budget de l'État, et qui régulièrement se taisent et ne s'expriment que quand ils sont sortis pour dire que c'est scandaleux, que les civils ont pris le pouvoir, que c'est le cabinet qui décide, etc. etc. Vous ne me ferez pas pleurer sur les généraux français.
Vous vous rappelez qu'on a reçu deux généraux à la retraite.
Oui, il y en a plein.
Que j'ai lu, mais il faudra que peut-être les auditeurs rectifieront. Je crois qu'on a autant de généraux que l'armée chinoise.
Au-delà de la boutade, si tous les généraux en retraite étaient comme ceux que nous avons reçus et aient la même pertinence de l'analyse et de contribution au débat, on n'en serait pas là. Mais il est évident que bien évidemment, oui, l'armée française est sinistrée. Le joli coup du Mali est un coup, je ne vais pas dire un one shot parce que c'est pas comme ça qu'on dit, mais un coup unique. C'est le fusil à un coup. Nous sommes incapables. Alors, la Syrie, de toute façon, on n'aurait pas envoyé de troupes au sol. C'est encore heureux vu le bourbier. Mais enfin, chacun sait que nous aurions envoyé probablement 3-4 rafales, tirer chacun 3 missiles. Enfin, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc, la France a été humiliée diplomatiquement, et la France s'est engagée dans une opération totalement irresponsable. Alors je pense pas que... Et puis alors, on a parlé de François Hollande, mais enfin on a quand même assisté au festival du délire de nos anciens premiers ministres, Balladur et Juppé franchement, il en rate pas une. Je veux dire, il en rate pas une. C'était l'occasion de faire le gaullisme.
Oui. Il est en tête, c'est l'homme politique préféré des Français. Ouais, maintenant, voilà, ça va faire une sorte de couche claire.
Devant Manuel Valls.
Oh, c'est dire. Justement, le François Hollande qui nous a joué il y a deux jours, c'est un vrai joueur de bon ton parce qu'il est arrivé à nous démontrer que c'est grâce à son action que les Russes ont pu bouger, ce qui n'est pas entièrement faux. S'il n'avait pas bougé, les Russes ne seraient pas intervenus.
Il est évident, et c'est là où on saisit les délices de la diplomatie mondiale, c'est-à-dire que les Russes laissent faire sur cet argumentaire. Les Russes, je veux dire, que leur option préserve le monde multipolaire et par la même les réputations dans leurs opinions publiques respectives de François Hollande et de Barack Obama, mais c'est un cadeau, c'est un plaisir. Donc bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure dans l'échange avec Pascal et Céric, l'option dont nous parlons, ça fait un an qu'elle existe, elle a été mentionnée par les Russes dans les quelques brèves discussions Obama-Poutine au G20 de Saint-Pétersbourg, donc bien avant les effets de manche du va-t-en-guerre de la Corrèze. Donc autant vous dire que je ne crois pas que ce soit lui qui ait affolé les Russes. Mais si ça permet de sauver la face, faisons-le. La diplomatie, c'est aussi ça. Ce qui est certain, et assez parlé de Hollande, ce qui est fascinant quand même, c'est la fragilité des États-Unis. Je vois deux fragilités. La première, c'est la fragilité des États-Unis eux-mêmes, qui commencent enfin à être de nouveau tiraillés par la logique du non-interventionnisme. Et il aurait été documentaire d'assister jusqu'au bout au vote qui aurait été catastrophique à la Chambre des représentants et possiblement perdu au Sénat, alors là même que l'ensemble de l'establishment américain, des chefs de file des deux partis dans les deux chambres, était favorable. Ça, c'est la première chose. Donc il y a aussi une déconnexion des élites, au moins sur ce point de vue-là. Et donc ce qui tendrait à penser quand même que les poids des lobbies font leur travail, mais ils ne peuvent pas irriguer dans l'Amérique profonde, c'est assez intéressant. La deuxième fragilité, c'est la fragilité d'Obama. Obama, on sait très bien, c'est que souvent le procès d'irrésolution lui a été fait, mais toujours, et on lui a mis aussi l'étiquette d'un très habile politicien. Ce coup de bluff de l'appel au Congrès qui a sidéré sa propre équipe.
Oui, dans la Constitution américaine, il n'est pas obligé.
Il n'est pas obligé. Après, il y a un débat sur... Non, mais il n'est pas obligé. Mais surtout, il n'a même pas prévenu Kerry. Enfin, il y a un côté coup de bluff, je vais m'en sortir, et puis comme ça, soit ça marche et je m'en sors, soit ça marche pas, mais je suis couvert, je l'aurais fait. Il ne pouvait pas penser que ça irait jusqu'à la pantalonnade. Donc là, il y a une fragilité qui est la fragilité du commander-in-chief, comme on dit aux États-Unis. Et alors, Donc Barack Obama s'en est sorti par une pirouette une fois avoir saisi la proposition des Russes avec cette déclaration tout à fait hallucinante à laquelle vous avez dû assister ou dont vous avez eu transcription qui fait état du rôle exceptionnel de l'Amérique. Soit dit en passant, je m'étonne. Alors je lis pas toute la presse, hein, donc ça a dû m'échapper. Le rôle exceptionnel de l'Amérique qui doit sortir dès lors qu'on gaze des populations civiles. Enfin, je m'étonne. Est-ce que le rôle exceptionnel de l'Amérique s'est-il manifesté autrement à Hiroshima et Nagasaki? Enfin, c'est quand même la seule puissance au monde à l'heure où nous parlons qui a nucléarisé 150 000 civils. Alors si c'est ça le rôle exceptionnel de l'Amérique, on n'est pas preneur. Mais on pourrait aussi rappeler à la France que nous avons consciencieusement, et y compris en respectant les alternatives politiques, armé l'Irak de Saddam Hussein, qui s'est livré à une guerre chimique des plus horribles face à l'ennemi iranien. Donc, l'idée n'est pas de le donner des leçons de morale, mais l'idée avec, est de dire quand même que les trajectoires exceptionnelles des pays sont...
N'oubliez pas, Philippe, avec ce déclassement de la CIA, qui était quand même un vrai bonheur, expliquant que les Américains ont aidé les Irakiens à gazer l'Iran, car c'est eux qui ont fourni les gaz.
Oui, oui, non, mais voilà. c'est arrivé au même moment. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant, si vous voulez, dans le débat public français, j'ai trouvé qu'il y avait des analogies qu'on pouvait faire, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je dois dire que les raccourcis étaient pourtant simples à faire. Alors moi, sur cette déclaration d'Obama, je ne résiste pas au délice de vous lire, je vais la traduire, le courrier qui a été publié dans le New York Times par Vladimir Poutine. Hein, vous avez vu, c'est un très bel article, donc il est en anglais, je vais pas le lire intégralement, mais Poutine quand même, alors c'est un très bon article parce que il s'adresse au peuple américain et pas à Obama. Et c'est un texte bien écrit, c'est écrit pour des Américains. Oui. Et vous en verrez la suite, la fin qui est assez croustillante. Bon, en gros, Poutine explique qu'il faut respecter le système des Nations Unies. Il explique quand même que en Syrie, c'est pas une bataille pour la démocratie, mais c'est un conflit armé entre un gouvernement et une opposition dans un pays multiconfessionnel. Et qu'il y a un certain nombre de combattants d'Al-Qaïda, il cite quand même nommément les organisations que le département d'État des Nations Unies a lui-même labellisé comme organisations terroristes, hein, le Front al-Nusra, l'État islamique d'Irak et du Levant, enfin, etc. Ensuite, il fait un petit clin d'œil, on pourrait presque imaginer qu'il le fait à la France, hein, quand il explique qu'il y a des mercenaires de tous les pays arabes qui sont en train de combattre ici, et d'ailleurs, des centaines de militants de pays occidentaux, et même de Russie, c'est un sujet qui nous concerne profondément. Est-ce qu'ils ne vont pas retourner dans nos pays avec l'expérience acquise en Russie ? Après avoir combattu en Libye, les extrémistes se sont déplacés au Mali. Cela nous menace tous.
C'est là où il fait. Il a une connaissance intime des pays, de ses interlocuteurs.
Voilà. Enfin, en même temps, c'était pas très compliqué.
Mais Pascal est enthousiaste.
Mais sur la suite, sur l'exceptionnalisme. Alors, et
après,
sur la voie
ce qui est grave, c'est que après, effectivement, nous ne protégeons pas le gouvernement syrien. Nous protégeons la loi internationale. Donc là, vous avez un petit cours de loi internationale et d'équilibre des pouvoirs qui est assez intéressant. Il fait quand même la leçon. En expliquant la force a démontré son inefficacité. L'Afghanistan, on ne sait pas ce qui va se passer quand les forces internationales vont partir. La Libye est divisée en tribus et en clans. En Irak, la guerre civile continue, etc., etc. Et même aux États-Unis, beaucoup tracent une analogie entre l'Irak et la Syrie et se demandent pourquoi leur gouvernement veut répéter les erreurs récentes. Et donc c'est la fin qui est la plus belle. Je vais essayer de la traduire mot à mot sans faire de bêtises. Donc il dit mon mon action et ma relation personnelle avec le président Obama est marquée par une croissance, par une confiance grandissante. Hein, pour tout ça, c'est drôle. I appreciate, hein, c'est très anglo-saxon. J'ai étudié soigneusement son adresse à la nation de mardi, et je dois dire que je suis en désaccord sur la mention qu'il a faite de l'exceptionnalisme américain, en disant que la politique des États-Unis était, entre guillemets, ce qui rend l'Amérique différente, ce qui nous rend exceptionnels, dit Obama. Il dit, c'est extrêmement dangereux d'encourager les gens et les peuples à se voir eux-mêmes comme exceptionnels. On va pas dire le pays élu, mais quelle que soit la motivation, il y a des grands pays et des petits pays. Il y a des pays riches, il y a des pays pauvres. Il y a ceux qui ont une longue tradition démocratique et ceux qui sont toujours en train d'aller tracer leur chemin vers la démocratie. Leurs politiques sont différentes également. Nous sommes tous différents. Mais lorsque nous allons aller chercher la bénédiction du Seigneur, nous ne devrons pas oublier que Dieu nous a tous créés égaux. Signé Vladimir Poutine, President of Russia. Je trouve que c'est pas mal joué.
Alors, je signale aux auditeurs que le site ProRussia TV a traduit ce texte et vous pouvez le trouver. Vous faites ProRussia TV.
C'est certainement mieux traduit.
Et vous allez trouver, mais vous avez fait une traduction.
Ils l'ont traduit en russe.
En français, ProRussia TV est une télé russe en France. Mon cher Philippe. Ça a été quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Américains et même les Occidentaux étaient persuadés qu'au bout d'un moment, Poutine n'allait pas bouger, en fin de compte.
Je crois pas. Si vous voulez, nous avons l'habitude de décrire, on va dire, le droit de l'hommisme, pour faire simple, comme une espèce de paravent idéologique qui vient parasiter la prise de décision, etc. Une espèce de mièvrerie permanente qui permet aux uns et aux autres de passer des messages sournois, certains de s'enrichir, etc., etc. Moi, je crois que quand on est à l'intérieur d'un système, on ne peut pas s'extraire du système que l'on prône et dans lequel on vit. C'est ce qu'on a vu en Libye, c'est-à-dire que, mine de rien, Nicolas Sarkozy n'a pas pu échapper à la théâtralisation de Bernard-Henri Lévy, parce que c'était son mode de faire, c'était ses réflexes, c'était ses réactions. De la même manière, je pense que la machine, enfin c'est pas pour rien qu'il y a un quatrième pouvoir médiatique et tout ce qu'on veut, c'est la machine qui s'est emballée autour, au début, du sensationnalisme. Alors, je n'ai pas les preuves, je ne peux pas le dire, donc je me dis simplement que si l'ONU avait trouvé des preuves irréfutables d'emploi de gaz sarin par les forces de Bachar el-Assad, je peux vous le dire, ça fait longtemps qu'on le saurait. Bon. Donc, je me dis quand même, hein, moi j'ai quand même l'habitude de regarder dans les détails et d'aller chercher les preuves sur ce type de sujet-là où on nous raconte n'importe quoi, en règle générale.
Donc, oui, on commence à avoir un peu d'expérience quand même.
Un peu d'expérience. Bon, donc... le sensationnalisme provoqué, le coup médiatique provoqué par des agences de com, c'est comme ça que ça marche. Depuis l'affaire des bébés dans les couveuses irakiennes au Koweït, c'est comme ça que ça marche. Vous avez une affaire de com, Srebrenica, c'est monté comme ça, etc., etc. Les politiques des opinions publiques occidentales sont prisonnières. Un peu elles y croient, un peu pensent qu'elles doivent y croire parce que c'est les systèmes qui les légitiment et qu'elles continuent à pousser. Donc à un moment donné, elles peuvent plus faire marche arrière. Est-ce que c'est leur faiblesse majeure? Je pense pas qu'il y ait eu de calcul pour se dire le crime va être décrit comme tellement gros que les Russes seront obligés de. Enfin, toutes les chancelleries savent très bien que les Russes ont gardé en travers du gosier l'escroquerie de l'affaire libyenne. Les Russes se sont fait escroquer, et je dis escroquer parce que je suis au micro de la radio et que les petits enfants nous écoutent et même les grands. Les Russes se sont fait escroquer et c'est pas prêt de revenir. Et je pense que les Chinois leur disent. Allez-y les pop-off parce qu'on est d'accord avec vous. Bon, et donc non, je crois que là où les occidentaux avec le mauvais sens, hein, on sait qu'il y a derrière ce terme, se sont fait abuser, c'est que ils n'ont pas réagi avec le même paradigme que Vladimir Poutine. Vladimir Poutine et les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc, un vieux truc, hein, qui date. C'est, d'ailleurs, vous en parliez avec votre précédent invité. C'est vieux comme le monde. Ah, beaucoup de gens ont oublié ce que c'était. Ça s'appelle de la politique. Et Vladimir Poutine, il fait de la politique. Vladimir Poutine, quel est son sujet? Son sujet, c'est pas d'embêter Obama. Son sujet, c'est pas d'embêter Hollande. Son sujet, c'est de faire de la politique. Et quels sont les enjeux de la politique russe? C'était tout d'ailleurs fascinant, pardonnez-moi, parenthèse dans la parenthèse, mais quand vous regardez la presse française, en gros, alors quand même, on sent qu'ils tordent la bouche, le nez, le stylo pour dire quand même, les Russes ont bien joué, hein. Bon, d'accord, bon. Mais en gros, ils vous expliquent que la diplomatie russe et Vladimir Poutine sont paranoïaques. C'est la paranoïa qui dicte leur... Mais regardez le nombre de fois où ce terme est utilisé, qui est un terme quand même médical. Volonté de retrouver la face. Oui, parce que les Russes ont été humiliés. D'ailleurs, on voit, hein, ils peuvent plus tracer les missiles. Hein, bon, bref. Donc, ils sont humiliés et ils veulent retrouver leur face. Donc, ils sont obligés de faire des biceps, tout ça, etc. La crispation, c'est des nostalgiques. Enfin, voilà l'exégèse de la pensée diplomatique russe qui, pourtant, brille par sa prévisibilité et y compris par la stabilité de ses acteurs diplomatiques. Si on a 5 minutes, je vous dirai 2-3 trucs sur Sergueï Lavrov parce que c'est rigolo. Mais c'est pas ça que fait Poutine. Il cherche pas un statut, il cherche pas à soigner sa paranoïa délirante. Il fait de la politique. Quel est le sujet de Poutine? Sujet numéro 1, il faut rester présent dans le jeu diplomatique moyen-oriental en préservant l'un de ses derniers partenaires régionaux. Y compris en utilisant ses partenaires régionaux contre les ennemis de toujours ou les opposants réguliers, comme par exemple la Turquie, qui joue le jeu que vous connaissez sur le monde turcophone de l'Asie centrale. Deuxièmement, c'est d'éviter un encerclement américain. Il faut regarder une carte. Regardez, auditeurs qui nous écoutez, regardez le croissant. Vous prenez les États d'Europe de l'Est qui sont désormais inféodés à l'OTAN, hein, Roumanie, Bulgarie, vous prenez la Turquie, vous avez en dessous l'Égypte et l'Arabie Saoudite, vous avez de l'autre côté le Pakistan, et il vous reste au milieu l'Iran, l'Irak, la Syrie. L'Irak est un champ de ruines, l'Iran est fragile et n'est pas un allié aussi docile que ça pour les Russes. La Syrie, c'est le cas. Donc, évitez l'encerclement américain. Troisièmement, préserver un point d'appui vital pour la marine russe. Je ne vais pas vous faire la tarte à la crème sur la géopolitique, les ports avec les accès à la mer chaude et tatati et tatata. Enfin, il y a une base russe à Tartous. C'est à peu près la seule base non-américaine ou non-américanophile ou l'âtre de l'espace méditerranéen. Et puis enfin, dernièrement, c'est contrecarrer tout renforcement des islamistes, notamment dans le Caucase. Et on sait très bien que font partie des cibles armées par l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ce que vous voulez, la déstabilisation du Caucase et des républiques tchétchènes, ingouches, tout ce que vous voulez, font partie des buts de guerre du djihad. Et les Russes ont suffisamment perdu de temps et d'énergie dans ces régions-là pour que tout recommence.
Puisque je vois que vous regardez,
Pascal et Thierry.
Puisque je vois que vous regardez une carte, Damas est à 1000 km, pour donner une indication aux auditeurs, à 1000 km des premières républiques russes. Voilà, enfin du pourtour russe.
Oui. Donc, c'est le premier enjeu politique, géopolitique, géostratégique qui est presque un enjeu de survie de sécurité nationale pour la Russie. Petit 1. Il y a un autre enjeu qui correspond à la renaissance de la puissance russe et qui d'ailleurs s'appuie sur la place vide laissée notamment par la France. C'est que il y a, ça ne surprendra personne, Poutine reprend une partie de la politique des tsars, notamment en se présentant en protecteur des chrétiens d'Orient, que la France a largement abandonné. Oui. Il a fallu, seul François Fillon, hein, Fillon qui là est en train d'essayer un peu plein de trucs pour se rappeler que quand même il y a des types qui votent à droite et qu'il faut faire gaffe et qu'on est un peu gaulliste, tout ça. Bon. Mais sinon, plus personne ne s'en occupe. Et même ceux qui parlent à Paris n'agissent pas. Poutine envoie aussi un message clair qui est « Les chrétiens d'Orient, je m'en occupe ». Par la même occasion, Poutine évite de prendre position dans un bain de sang musulmano-musulman. Je rappelle que sur le territoire russe vivent en parfaite harmonie, à l'exception de la déstabilisation menée par les Wahhabis dans la République du Caucase, pas loin de 10 millions de musulmans dans un système d'intégration qui fonctionne. Et la Russie n'a pas intérêt à voir cette frêle équilibre être déstabilisé. Le troisième sujet, c'est qu'évidemment, il y a des enjeux économiques, bien sûr, il y a des enjeux économiques.
Enfin, il entre.
C'est epsilonesque. Non, mais
c'est ça qui est drôle. Sur la région, c'est vrai
que c'est que
ça ne représente pas grand-chose.
On n'est pas compte, la Syrie achète des armes, machin. Oui, d'accord, c'est le huitième client de l'industrie d'armement russe. Bon, alors, perdre un client, c'est jamais bon, hein. Faut pas perdre de client. Bon, enfin, quand même. C'est pas ça le sujet. Et donc, effectivement, de voir que la thèse russe a été résumée par de la paranoïa, de la nostalgie et puis la volonté de garder gnac-gnac-gnac des marchés, alors que bien évidemment, détruire la Syrie du régime alaouite et demain la reconstruire avec du BTP et des armes, ça c'est quelque chose qui n'a pas effleuré, bien évidemment, les vigilants occidentaux prêts à frapper.
Ouais, mais écoutez, il vous reste encore une ou deux minutes.
Oui, si vous aviez quelques deux, trois mots à dire sur Lavrov.
Oui, mais je vais pas le faire parce que du coup j'ai faire autre chose
parce qu'il me paraît quand même c'est un personnage intéressant.
Oui, mais donc je
le garde,
je promets, je le garde. J'ai beaucoup travaillé pour me documenter sur lui et donc
un beau portrait de Lavrov.
Il vous reste 3 minutes.
Alors j'ai juste donc Lavrov, ça fait 10 ans qu'il est à la tête du ministère des Affaires étrangères russe. Bon, il est loin d'égaler le record d'Andrei Gromyko, 28 ans. Enfin, ça montre quand même la prévisibilité de ses politiques, hein. Chez nous, avant de trouver un ministre qui est 10 ans au même endroit. C'est pas compliqué, les longévités ministérielles, c'est le ministre des Finances allemand et le ministre des Affaires étrangères russe. Enfin, tout est dit.
Ouais. Bon. Chez nous, c'est plutôt les plus petits.
Je voulais citer cette phrase du grand diplomate de l'après-guerre chez les Américains qui s'appelait Avril Harriman et qui disait « Attendez les gars, négocier avec les Russes, c'est acheter deux fois le même cheval. » Donc autant vous dire que le brave John Kerry avec sa permanente, il est pas au bout de ses peines. Non, ce sur quoi je voulais dire quelques mots et du coup je vais conclure et je le dis à l'avance, je vais un peu paraphraser un excellentissime papier qui a été fait par Michel Geoffroy qui signe sur le site www.polémia.com.
Vous avez 2 minutes pour nous parler de Polémia.
Qu'est-ce que dit Geoffroy? Geoffroy il dit c'est pas très français ce que je viens de dire. Que dit Geoffroy? Geoffroy analyse la situation avec acuité, comme toujours, et relève que, pour nous les Européens, premièrement, la Russie, c'est bien un antidote bénéfique à l'ordre mondial. Deuxièmement, la Russie, c'est un pays qui est fier de son passé comme de son identité. Troisièmement, la Russie, ça reste le cauchemar des Anglo-Saxons parce que la Russie est, en fait, la seule véritable puissance totale, c'est-à-dire politique, économique, stratégique, en Europe et dans l'orbite européenne. Et donc, on n'a pas fini de lui taper dessus du côté des Anglo-Saxons et des médias qui sont à leur botte. La Russie, c'est l'arbitre de la multipolarité. C'est quand même grâce à la Russie qu'on va probablement préserver un petit peu de monde multipolaire. Et donc, quand on voit en plus qu'un Snowden n'a pu trouver refuge qu'en Russie et non pas en France, qui a été capable quasiment d'arrêter l'avion du président bolivien, quel scandale absolu. Ah oui. Donc, ce n'est pas en Russie que c'est en Russie qu'un Snowden a été obligé de trouver refuge et pas dans la patrie des droits de l'homme. Bref, la Russie vient rappeler aux Européens que la puissance, ça existe, que la puissance, c'est possible, que la puissance, ça marche. Et visiblement, la Russie nous annonce que c'est à l'Est que renaît la liberté.
Merci à vous, Philippe Christel. C'était superbe. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, toujours sur Radio Courtoisie. Quant à nous, on se retrouvera dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site de radiocourtoisie.fr ou sur lavieilleeurope.fr ou réécouter cette émission jeudi soir, qui sera toujours d'une actualité brûlante, grâce à Philippe Christel. Bonne soirée à vous et restez sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle within 3 weeks. You think plays for this brother? He'll make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.